Nous sommes au mercredi 11 septembre 2024, il sonne 11h sur votre radio. Vous comprenez que c'est l'heure à laquelle, pardon, l'émission Club de la Presse démarre. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous choisir pour le compte alors de ce troisième numéro de cette semaine, bien sûr. Je suis Pascal Lousseau au micro, Michel Coco, Vitok Betobega est à la mise en onde, Gérard Dakouta est à la mise en ligne. Merci à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Amiro, Radio La Paix à Takpamé, Central FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapan. Merci surtout pour votre fidélité sans cesse renouvelée. Nous disons aussi merci fraternel à vous qui nous suivez partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, à savoir notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. N'oubliez pas, vous nous suivez aussi sur des radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Libéné. Comme de la presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi. Nous sommes au mercredi. Abel William est là. Abel, bonjour.
Pascal, bonjour. Bonjour à tous les branchés de Canal FM.
Je te sens un peu fatigué. Je te l'ai dit au micro tout de suite. Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe?
Ça va.
Oui. D'accord. C'est l'essentiel. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. Autre confrère qui est déjà là, c'est Abassi Saka, toujours jaloux de ses acquis, et c'est toujours commandant. Il n'a pas changé de grade. Abbas, bonjour.
Oui, je suis toujours commandant, mais ça va évoluer.
Non, ça doit évoluer, parce que tu as commencé par dire que ça doit évoluer il y a un peu longtemps, donc il faudrait quand même que tu prennes un autre grade là.
Ça va aller. Je salue tous les auditeurs et autrices de la radio Canatem.
Tout à fait.
Je salue notre invité, un très important invité que je ne veux pas dévoiler.
Tout à fait. Nous allons le dévoiler dans quelques instants, bien sûr. Oui, c'est un invité politique. Voilà.
Très important.
Très, très important, bien sûr. Alors, William Abel, c'est vrai que nous savons bien parler de la santé avec Santé Éducation chaque mercredi, puisque c'est chaque mercredi que votre journal est souvent dans les kiosques. Et donc, vous traitez alors des sujets de santé, mais je ne le laisse pas alors s'installer avant de lui dire un petit bonjour. Bonjour Sylvestre.
Oui, bonjour Pascal et bonjour à toutes et à tous.
Comment tu vas?
Nous, comme poisson dans l'eau.
Ça n'a pas changé.
Non, pas du tout.
Mais on se pose toujours la question de savoir, et c'est quelle eau.
Ah oui, il faut préciser, pas n'importe quelle eau.
Voilà.
Parce que ça, quand c'est dans la sauce, ça c'est autre chose.
C'est autre chose, bien sûr. Alors, ben, je le disais, vous avez votre journal Santé Éducation dans les kiosques ce matin. Vous êtes revenu sur un sujet très important, surtout sur ce légume que nous appelons Agbisan. C'est l'aubergine, bien sûr. Vous écrivez Agbisan pour prévenir AVC et crise cardiaque.
Exactement. Agbisan, ce légume que nous avons dans tous nos marchés, dans tous nos marchés au Togo et dans la sous-région, c'est un légume très important pour notre santé cardiovasculaire. Pourquoi l'AVC, pourquoi les crises cardiaques, vous savez, aujourd'hui, il y a des chiffres qu'on a. Je peux la citer en 2022, par exemple, selon les statistiques, on a plus de 3000 personnes qui sont allées à l'hôpital à cause de l'AVC et 2500 seulement ont été victimes d'AVC à Lomé. Donc, déjà 1000 personnes sont mortes d'AVC. Donc, on voit déjà que le drame concernant l'AVC est tellement terrible. Donc, il faut prévenir ce fléau, il faut prévenir cette maladie. Donc, en commençant par notre alimentation, surtout notre alimentation. Donc, on propose ce légume qui a des vertus intéressantes sur la santé cardiovasculaire, riche en potassium. Le potassium, c'est un minéral qui contribue efficacement à baisser l'hypertension artérielle Et c'est aussi un légume riche en fibres. Et quand vous mangez beaucoup de fibres, vous avez aussi une santé du cœur optimale. Donc, il y a des études qui montrent que une consommation quotidienne de 25 à 30 grammes de fibres peut réduire jusqu'à 7% d'AVC. Donc, l'aubergine, il faut l'associer à d'autres aliments comme le poisson pour renforcer notre santé cardiovasculaire.
Il y a certains qui préfèrent la prendre tout cru, c'est aussi bon, c'est ça?
Non, attention, il y a en fait une précaution à prendre par rapport à la consommation de l'aubergine.
Voilà.
Donc, essentiel est qu'il faut...
Vous en avez fait cas alors dans le journal?
Dans le journal.
D'accord.
Donc, on parle d'AVC, on parle de crise cardiaque. Il y a également d'autres mesures importantes aussi qu'il faut prendre. À part la bonne alimentation, il faut toujours aussi faire de l'activité physique. Il faut éviter la sédentarité. Et puis, il faut limiter le sel, le gras, le sucre, l'alcool.
Voilà, donc, on a toujours l'habitude de le dire. Il faut éviter le sel, le gras, l'alcool. C'est très important puisque c'est des éléments qui sont aujourd'hui à la base, même d'ailleurs, de ces nouvelles maladies, comme nous aimons les appeler. Alors, oui, mais restons toujours dans le cadre alors de l'AVC. Vous parlez de l'arrêt cardiaque et vous écrivez arrêt cardiaque, cause possible. Quelles sont peut-être les causes possibles alors de l'arrêt cardiaque, Abel?
Oui, l'arrêt cardiaque, tout le monde peut en être victime. Hein. Tout le monde peut en être victime. Et c'est quoi, en fait, quand on parle d'arrêt cardiaque, on fait allusion à quoi? On peut comprendre que l'arrêt cardiaque, d'abord, c'est une condition médicale grave qui se produit lorsque le cœur cesse de battre efficacement. Donc, ça entraîne une interruption de la circulation sanguine vers le cerveau et les autres organes. Donc, l'arrêt cardiaque, donc, comme on le dit, c'est une interruption. Donc, c'est un arrêt. Donc, le cœur cesse de battre. Donc, plusieurs causes peuvent entraîner ce malaise, cette condition médicale. D'abord, l'essoufflement, par exemple. L'essoufflement peut entraîner un arrêt cardiaque. Ou bien l'étouffement. Voilà. Quand on s'étouffe, quand on est étouffé par quelque chose, ça peut entraîner un arrêt cardiaque. Et d'autres maladies comme l'hypertension artérielle, comme le diabète, il faut aussi faire mention du tabac, en fait, de la cigarette également, et surtout la sédentarité. Ça, c'est un facteur important qu'il faut prendre en compte. La sédentarité aussi peut amener à un arrêt cardiaque. Donc, l'arrêt cardiaque, comme on le sait, ça peut survenir à tout moment. Donc, soudainement et sans avertir également. Donc, ça peut survenir à tout moment et sans avertissement. Donc, il faut comprendre qu'il faut toujours qu'on informe, il faut toujours qu'on éduque, il faut toujours qu'on dépiste, en fait. Donc,
informer, éduquer et dépister.
Voilà, pour que on ne soit plus victime de cet arrêt cardiaque-là. Parce que c'est brutal et puis c'est fatal.
D'accord, c'est voilà. Brutal et puis c'est fatal.
Donc, au moins signe d'arrêt cardiaque, attention, il faut amener le patient directement à l'hôpital.
Mais est-ce qu'il y a des signes quand même précurseurs d'un arrêt cardiaque quand vous sentez peut-être? Je pense qu'entre-temps, il y a une des parutions qui en avait fait cas de telle enseigne qu'on en a parlé, même d'ailleurs ici au club de la presse. Et est-ce qu'il y a des signes précurseurs?
Oui, il y a des signes précurseurs. Vous avez peut-être mal à la poitrine. Vous croyez que c'est juste un mal à la poitrine, banal, mais attention, c'est juste un signe précurseur. Mais l'arrêt cardiaque, en réalité, comme je le dis, ça survient. Quand ça survient, automatiquement, le cœur lâche et on ne respire plus. Et en fait, ça devient brutal, quoi. Voilà. Et donc, essentiel d'écouter son corps. Il faut toujours écouter son corps. Au moindre signe, consulter un médecin.
Mais est-ce qu'il y a une différence entre l'arrêt cardiaque et l'AVC?
L'AVC, on a deux types d'AVC. Il y a d'abord l'AVC ischémique et l'AVC hémorragique. Donc, ces deux cancers, deux sortes d'AVC, c'est ça, l'accident vasculaire cérébral. Ça se passe dans le cerveau, ça se passe dans le cœur. Voilà.
D'accord. Alors, vous vous intéressez à un autre sujet, c'est le sujet de oligospermie. Vous écrivez à flamand, traiter oligospermie et mal de tête, c'est ça?
Exactement. À flamand, c'est une plante aussi qu'on dispose sur le marché.
Et cette plante également intervient dans le traitement de l'oligospermie. Quand on parle de l'oligospermie, et c'est juste comprendre que c'est aussi une condition médicale où la concentration des spermatozoïdes dans le sperme est inférieure à la normale chez l'homme. Voilà. Donc, on peut voir qu'un homme qui est oligospermique, c'est un homme qui a moins de 15 millions de spermatozoïdes par millilitre dans son sperme. Voilà. Donc, déjà, quand on est à ce seuil, on parle d'oligospermie. Donc, ça peut amener l'homme à avoir des chances réduites de conception. Donc, la belle fertilité peut être observée. Donc, à flamme, c'est une plante, les feuilles, quand on les prépare en décoction, ça peut aider à booster cette fertilité chez l'homme. Donc, c'est aussi contre le mal de tête, contre les migraines, contre les céphalées de tension. Donc, c'est une place efficace également. Et attention à la polyologie. Et quand on souffre de l'oligospermie, quand on souffre de mal de tête sévère, tout ça là, l'important aussi est d'aller consulter un médecin.
Justement, voilà. L'essentiel ou l'important, c'est d'aller consulter un médecin pour qu'on sache exactement ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on diagnostique le mal ou ce qui se passe pour qu'on trouve également des solutions appropriées à cela. Alors, vous vous intéressez à un autre sujet, il s'agit alors du suicide. Le suicide, vous écrivez suicide au moins 711 décès en 2020 au Togo. Ah, mais c'est trop, non?
C'est trop. Hier, 10 septembre, c'était la journée mondiale de prévention contre le suicide. Ça, ce sont les chiffres de l'OMS au Togo. C'est trop. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est un gros fléau qu'il faut combattre également, qu'il faut prévenir.
Mmh.
Voilà. Donc, cette année, le thème qui a été choisi, c'est changer le discours. Changer le discours, pourquoi? En fait, c'est un thème qui vise à inspirer les individus, les communautés, les gouvernements, à engager des discussions, des conversations ouvertes et honnêtes sur le suicide. Donc, l'important, en fait, c'est que ce thème vise à faire tomber les barrières telles que la stigmatisation et sensibiliser à promouvoir une culture pour soutenir et prévenir le suicide. Beaucoup, aujourd'hui, ont des idées suicidaires. Bon, on se pose beaucoup de questions, qu'est-ce qui ne va pas, quelle est la cause, tout ça là. Bon, il faut maintenant engager des conversations, des conversations, des discussions, pour qu'en réalité, on sache qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi on a de telles idées suicidaires? Pourquoi on veut se suicider? Donc, il faut éviter qu'on stigmatise les gens par rapport à ça. Surtout les familles qui ont peut-être perdu des proches, des êtres chers à cause du suicide. Donc, c'est une journée mondiale également qui nous permet de réfléchir également sur ce fléau-là. Parce que le drame est là, et on en parle peu, et c'est l'occasion aussi de susciter les décideurs à pouvoir comprendre que, en réalité, se suicider,
ce n'est pas la solution.
Ce n'est pas la solution.
Et c'est ce que vous voulez dire quelque chose.
Je voulais placer un mot. 711 Togolais qui se sont suicidés en 2020. Je crois que c'est un signe qui doit alerter véritablement les gouvernants. Je crois qu'en 2019, j'avais sorti un article ici où je disais justement que c'est quand 4 personnes se sont suicidées uniquement par pendaison. Uniquement par pendaison, donc c'est quand 4 Togolais se sont suicidés entre 2019 et 2020. Aujourd'hui, quand on prend le tout, ça suicide par absorption, donc
par
noyade et tout ça, on arrive à un chiffre de 711. Je crois que c'est alarmant.
C'est alarmant, vraiment. Voilà. Et merci beaucoup. Oui, Abel, je pense que nous sommes pratiquement à la fin de cette chronique, chronique santé. Et si votre journal santé éducation, quelqu'un désire avoir le journal en papier, en PDF, quelles sont les conditions?
Oui, le journal papier est déjà dans les kiosques et le journal numérique, le PDF, est sur notre site, téléchargeable sur notre site sante-education.tg, près de 500 francs. Mais la version papier est à 1000 francs seulement.
D'accord, voilà. C'est à 1000 francs seulement.
Mais
merci beaucoup Abel d'être passé dans cette émission. Ça fait toujours plaisir d'être avec vous chaque mercredi pour parler des différents sujets liés à la santé et tels qu'évoqués par votre journal Santé Éducation. Nous sommes rejoints par notre consoeur Estelle Koudjani. Estelle, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à l'invité, bonjour aux confrères sur le plateau, je n'oublie pas les techniciens. Bonjour également aux auditeurs et auditrices de Canal FM.
J'espère que tu vas bien.
Je vais bien, merci.
Voilà, vous parlez d'invité, il y a Abbas également qui parlait d'un invité très important, c'est un invité politique, et il s'agit de Maître Tassona Traoré. Maître, bonjour.
Bonjour mon cher ami.
Voilà, vous êtes président du CPC, cadre permanent de concertation, et président du Mouvement citoyen pour la démocratie et le développement MCD. Merci d'avoir répondu à notre invitation, maître.
C'est un honneur et un privilège pour moi d'être dans vos studios.
D'accord.
La dernière fois que j'étais, il y avait coupé d'électricité, on avait fait une émission à presque à moitié.
Voilà.
Bon, ça fait quand même plus d'un an, ça fait plus d'un an déjà. Et je profite de saluer l'ensemble des journalistes que je vois autour de la table pour leur travail, comme une fois, utile pour notre pays, travail d'éducation, de sensibilisation et d'alerte, souvent, sur des questions importantes de notre pays. Je salue Canal FM, pour ce travail au quotidien, parce que c'est presque tous les jours, c'est un rendez-vous que les Togolais ne manquent pour rien au monde. Et surtout, l'effort que vous avez fait de diversifier, de rendre possible que l'ensemble de nos concitoyens à l'intérieur du pays peuvent suivre vos émissions. Et je profite également à saluer tous les Togolais qui nous écoutent en ce moment, dans leur togolité, sous la togolitude.
Merci beaucoup, maître, d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons parler de l'actualité telle que vous la maîtrisez et parler des sujets politiques, sociaux et économiques, hein, si cela nous tente alors de toucher les différents domaines alors de notre actualité. Alors, maître, d'abord, je vous présentais tout de suite en tant que président du CPC, cadre permanent de concertation. Maître, qu'est-ce que ça dit d'être alors président du CPC?
Non, c'est une question de responsabilité. Nous avons travaillé dans le cadre précédent de la CNAP et nous évoluons depuis quelques années déjà dans le CPC. Vous savez, au CPC, c'est l'ensemble des formations politiques de l'opposition en face du pouvoir. Donc, conjuguer l'ensemble des prétentions, des sujets importants que chaque formation politique amène au débat avec sa ligne, ses propositions, avec ceux du gouvernement, pour trouver le juste milieu, ça n'a jamais été facile. Il me semble que c'est un exercice indispensable. Ça nous apprend à un dépassement de soi, à relativiser, parce que parfois on croit que l'idée qu'on a est la meilleure et qu'on a la science infuse. Mais lorsque on vous expose une idée contraire, ça vous amène à réviser votre propre vision. Donc c'est une question, c'est un exercice important. Alors nous pensons que maintenant, passer de 17 à 27 que nous sommes aujourd'hui, ça va être plus dynamique et plus alléchant.
D'accord. Alors, maître, c'est vrai que cette question de dialogue, les Togolais ont toujours, ou les acteurs politiques plus précisément, ont toujours eu affaire des dialogues alors dans ce pays. Et le CPC également en est aujourd'hui un cadre hein, qui témoigne vraiment de cette volonté alors d'aller toujours vers le dialogue quand il s'agit alors des sujets épineux de notre société ou de notre vie politique. Alors, est-ce que vous avez vraiment l'impression que tout se discute vraiment au CPC?
Au CPC, pour ce que je connais à ce jour, il n'y a jamais eu de sujet tabou. Tous les points que des gens voudraient inscrire à l'ordre du jour sont toujours acceptés et discutés. Il n'y a pas de sujet tabou. Nous en discutons. Certes, les gens ne voient pas le travail qu'on fait parce que ce n'est pas public. Le public n'y a pas accès. Mais je sais combien des gens se donnent pour pouvoir faire des propositions et qui améliorent le vécu des Togolais. Comme je vous l'ai dit, disais tout à l'heure, il s'agit là des partis politiques de l'opposition en face d'un gouvernement. Nous, les partis politiques de l'opposition, en fonction de nos idéologies, de nos programmes et de nos stratégies, sur le même point de sujets, nous pouvons avoir des points de vue divergents, avec des démarches divergentes. Le gouvernement en face, qui est à la manœuvre, et qui, parfois, a du mal à pouvoir avancer sur certains sujets, parfois tire profit de ce que nous disons. Il arrive également qu'il explique pourquoi peut-être c'est nécessaire de faire ce qu'on nous demande, mais que c'est inopportun en ce moment, compte tenu des contraintes d'ordre budgétaire ou liées à la spécificité de certaines institutions, de certaines démarches. Cet exercice-là, il est important. De pouvoir tester la bonne volonté de tout un chacun, de pouvoir forcer les portes qui sont fermées. Vous imaginez que si nous venons là-bas avec nos prétentions, nos sujets de discussion, avec des propositions très claires et réalisables, c'est difficile au gouvernement de dire non.
Et vous pensez vraiment que ces propositions sont prises en compte?
Oui. Vous rappelez que le CPC a été mis en place pour continuer le travail que la CNAP a fait. Il y a eu des recommandations que nous avons faites au sein du CNAP, mais le CPC a eu vocation de pouvoir évaluer la mise en œuvre d'abord des recommandations de la CNAP, ensuite maintenant d'aborder des sujets qui n'avaient pas été abordés, qui sont importants pour le pays. Donc cet exercice-là qu'on se livre aujourd'hui, puisque la vie politique est dynamique, chaque jour que Dieu fait, il y a des sujets nouveaux, des besoins nouveaux qui viennent hanter notre vie au quotidien. Et puis d'autre part, que quand on parle de dialogue, le dialogue n'a jamais été usité dans un pays où il y a un développement fort, une démocratie forte. Nous sommes encore au balbutiement de notre constitution démocratique. Et il me semble qu'on ne peut pas faire l'économie de ce genre d'exercice. Parce que nous avons en face un régime qui a duré au pouvoir plus de 50 ans, d'après le RPT Unir, qui a des habitudes, qui a contracté des habitudes. En face, il y a les partis d'opposition qui veulent tout de suite le changement. Et c'est l'attente de tous les Togolais qu'il y ait un changement. Mais comment concilier ce besoin de changement avec les réticences qui peuvent venir en fonction de ce que nous mettons sur la table? Voilà un exercice difficile. Je crois qu'intellectuellement, c'est important pour les formations politiques. Parce que quand on reste dans son coin, on fait des communiqués, on fait des déclarations, parfois même on appelle à des manifestations. Mais lorsqu'on se retrouve dans ce cadre-là, et qu'on étale son idée, on se rend bien compte parfois qu'on a des limites, ou qu'on agit par anticipation. Je crois que ce qui manque toujours à notre classe, c'est ce travail d'anticipation, de proposer, d'anticiper sur les événements. Mais nous avons toujours remarqué que c'est par rapport à ce qui se passe, les problèmes posés par le gouvernement, que nous réagissons. Donc il est temps aujourd'hui que les partis anticipent, pas seulement sur des questions d'ordre politique, mais également sur des questions d'ordre économique et social.
Alors vous demandez plutôt qu'en tant qu'opposition, qu'on ait maintenant une opposition quand même qui propose.
Qui propose? Qu'on propose, non seulement dénoncer un fait, mais il faut proposer également comment en sortir. Et convaincre celui en face duquel on se trouve, qu'il est dans son intérêt et dans l'intérêt de la population de sortir de la situation à travers les propositions qu'on fait. C'est un exercice qui est difficile, parce que parfois, on se limite seulement à dénoncer, mais on ne propose pas grand-chose.
D'accord. Maître, avant de donner la parole à mes confrères, il y a Sylvestre qui se signale déjà pour poser une question. Mais moi, quand je posais la question concernant le fait que, est-ce que vous avez l'impression que tous les sujets sont discutés au CPC, c'est parce que, est-ce qu'on n'a pas l'impression que déjà, quand on prend la question de la constitution, de la nouvelle constitution, et quand on prend des questions comme le fichier électoral, et tous ces sujets-là sont en quelque sorte et mis à l'écart hein, pour ne pas en parler en tant que tel au CPC, puisque ça n'a pas été discuté.
Je crois que depuis que la nouvelle constitution a été adoptée, c'est la troisième séance qu'on a eue. On a eu une rencontre avec le Commonwealth, qui était au CASEF, À la suite de ça, c'est la dernière rencontre qu'on a eue la semaine dernière. Et c'est la troisième aujourd'hui. Et lors de la séance de la fois dernière, bien sûr qu'il y avait un ordre du jour, mais on a mis au moins 1h30 à débat des propositions des partis politiques qui venaient à ce CPC-là, dont entre autres des questions sur la 5e République. Et nous disions, si vous nous suiviez à la sortie de cette discussion, que tous ces sujets ont été actés comme thème à débat dans un proche avenir. Il n'y a pas de sujet tabou. Il n'y a jamais eu une volonté d'écarter un sujet au profit d'un autre. Quand tous les sujets viennent, on les prend, on les analyse, on les dissèque. Ce que je dis souvent, ce qui manque le plus dans notre démarche, c'est que nos propositions ne sont pas appuyées, c'est-à-dire nos dénonciations, les points qu'on a, ne sont pas appuyés de propositions de solutions. Quand vous dites, telle chose n'est pas bonne, on la dénonce, il faut proposer ce qu'on pourrait faire en tant que politique en lieu et place. À ce niveau, parfois, nous péchons. Mais c'est l'exercice auquel nous devons pouvoir nous livrer aujourd'hui en tant que politique. Parce que chaque parti politique a un projet de société. Il a une vision du pays. Il a une vision, il a une opinion de la gestion du pays. Il faut qu'on fasse cet effort-là d'aller de l'avant, de proposer. Parce que quand la proposition est bonne, au moins 80%, 90% des formations politiques s'alignent. Parfois, il y a des propositions qui se contredisent. Donc, il faut trouver le juste milieu. Donc, nous disons que ce travail-là, l'invite qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que quand on a la table, ce qu'on peut dénoncer dans la rue, c'est différent de ce qu'on peut dénoncer dans une salle de concertation. On n'a pas besoin d'aller proposer des solutions quand on est dans la rue, sur la radio. On dénonce le fait, on décrit comment le fait fait mal. Mais en tant que parti politique, on doit avoir une idée sur la démarche à suivre pour sortir de cette situation. C'est cet exercice-là auquel nous devons nous livrer aujourd'hui, travailler à proposer, à convaincre sur nos propositions, sur leur pertinence, sur leur nécessité.
D'accord. Maître Sylvestre Bigny, une question pour vous, Sylvestre.
Oui, je crois que la question a été posée à Maître, mais il n'a pas tellement répondu. Bon, je repose la question. Maître Chassonan disait tout à l'heure que tous les sujets sont débattus au CPC. Et donc, je repose autrement la question. Comment expliquez-vous que le CPC soit dribblé et le CPC et les Togolais cette nouvelle constitution qui a été imposée. Parce que vous avez dit, à la suite, après l'adoption de la constitution, vous avez tenu 3 réunions. Comment expliquez-vous que vous n'avez pas tenu des réunions en amont, avant l'adoption donc de la constitution?
Mais c'est tout le reproche que tous les partis de l'opposition font au gouvernement. On ne pouvait pas comprendre que malgré la présence du CPC, et qui tient régulièrement ces réunions, que la question sur la nouvelle constitution n'ait pas été débattue à l'intérieur. Vous saviez que cette réforme a été annoncée à la clôture de la session parlementaire, comme si un fait divers. Mais depuis, il n'y a plus de convocation, encore moins l'inscription de ce point à l'ordre du jour. Et c'est ça qui fait, nous sommes d'accord avec vous. Lorsqu'on ne convoque pas, comment on pourrait débattre de quelque chose qui n'existe pas? Ça, c'est le premier point. Deuxième chose, il peut arriver que nous arrivions à des conclusions, mais les textes qui organisent le CPC disent ceci, que les propositions qui seront issues des discussions au CPC ne peuvent pas méconnaître la spécificité de ceux qui gouvernent ou des institutions de la République qui doivent les traduire en fait. Prenons l'exemple de mon cas. On a discuté de voir peut-être la baisse du taux de recouvrement de la caution après les élections. Le texte de 91 qui a institué l'achat des partis, il est de 5%. Bon, au CPC, c'est-à-dire dans les discussions qu'on a eues, on a dit qu'il faut ramener ça à 2%. C'est acté au niveau des recommandations. Mais ça n'a pas été traduit dans le nouveau code électoral. Ce n'est pas parce que le gouvernement nous explique qu'en réalité, c'est que cette disposition-là nécessite qu'on analyse de manière claire quelles sont les incidences au niveau budgétaire et au niveau de l'organisation des élections. Parce que ça a été mis à dessein pour pouvoir décourager des candidatures plaisantines, comme on peut le dire. Donc, en réalité, ça ne veut pas dire qu'ils ont écarté, mais c'est en stand-by, on reviendra là-dessus. Sur la 5e République, il n'y a pas eu de débat, et nous l'avons tous dénoncé à l'unanimité, sur deux choses, sur cette Constitution. Parce que j'aime moi s'assister, répéter la citation du général de Gaulle en 1960, quand il lançait la 5e République. Il a dit ceci qui est important dans son discours. Une constitution, c'est d'abord un esprit, c'est un texte et c'est une pratique. Un esprit, qu'est-ce qui conduit celui qui gouverne à vouloir changer de constitution? Quel est le besoin? Qu'est-ce qu'il dénonce? Qu'est-ce qu'il reproche à l'ancienne situation? C'est ça l'esprit de la constitution. Le texte, il y a deux volets. Comment le rédiger et comment l'adopter? À ces deux niveaux, aucun parti de l'opposition n'a pu placer son mot. Mais, n'empêche qu'une constitution qui est censée s'appliquer dans la durée ne peut pas échapper à l'examen, à l'analyse des politiques. Sur sa pertinence, sur le besoin, sur ses défauts ou ses qualités. Et cette question-là, nous disons qu'on va en débattre. Il n'y a même pas de... C'est la dernière fois qu'ils ont été inscrits à l'ordre du jour. Et nous les avons actés. Il y aura débat là-dessus.
D'accord. Ma deuxième question, rapidement. Aujourd'hui, vous êtes président du CPC. Mais est-ce que vous ne partez pas déjà fragilisé parce que vous avez tenu des... Vous avez tenu des propos sur une radio sœur de la semaine où vous demandez au vote d'abandonner cette idée donc de lutte pour revenir à la position de 92, les manifestations, tout ça ne donnera rien.
Non.
Je crois que...
Ceux qui ont écouté mon passage sur Victoire FM, j'ai encore l'audio avec moi. Et ce qui a été repris par certains journalistes ou certains panélistes du panel, quand on sort une phrase de son contexte, ça donne un autre sens à la chose. Comment pouvez-vous croire que je puisse dire à l'ensemble de mes compatriotes d'abandonner leur idée? Non. Vous savez, toute lutte, toutes les initiatives se complètent. Ceux qui, aujourd'hui, disent qu'il faut combattre la 5e République pour qu'elle disparaisse, qu'on la retire, ont leur stratégie, leur propos. Nous attendons. Si le résultat se produit, c'est l'ensemble des Togolais qui vont applaudir. Nous attendons seulement qu'on nous indique la démarche. Mais en attendant, mes propos sont venus dans l'analyse de cette triptyque que je viens d'évoquer. Je dis, il est vrai que cette constitution a été adoptée sans que nous n'en maîtrisions l'esprit, sans que nous n'en participions à sa rédaction, encore moins à son adoption. Mais il y a encore du travail. On peut toujours discuter pour que cette pratique-là ne nous mette pas dans la situation de deux Togolais qui en sont fiers et de Togolais qui la subissent. C'est ce que je vois. Pour dire en quelques mots, pour résumer mes propos, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, si, je vous le dis une chose, il y a une citation que j'ai développée tout récemment avec quelqu'un. Le prince n'écoute le plus souvent les conseils du sage que lorsqu'il a quelqu'un qui trouble son sommeil. Comprenez qui veut. D'accord. Si nous sommes là à travailler pendant ce temps, à trouver des solutions négociées, ça n'empêche d'autres regroupements de développer leur stratégie qui, peut-être, vont faciliter ce que nous faisons au niveau de CPC. Donc, toutes les stratégies, rien n'est interdit. La liberté d'expression est là, la liberté de penser est là. Seule, la loi nous impose que tout ce que nous allons développer se fasse dans le cadre de la loi de la République.
D'accord. Merci beaucoup, maître. Oui, Estelle, une question pour vous, maître.
Oui, maître, vous venez votre porteur la tête du CPC. Félicitations pour cela.
Merci.
Et une égard à toutes les analyses que vous faites depuis la CIMAP jusqu'au CPC aujourd'hui, quelles sont vos ambitions à la tête du CPC aujourd'hui en tant que président et qu'attendez-vous du pouvoir d'abord en tant que président du MCD et en tant que coordonnateur et président aujourd'hui du CPC?
Merci beaucoup pour votre question qui est très importante. Non, c'est une durée très limitée, hein. Elle ne dépasse même pas.
Non, c'est trois mois.
C'est trois mois.
Au cours des trois mois, là, ce que nous entendons comme empreinte à poser, c'est de revoir la façon dont nous tenons nos réunions. Parce qu'on se tient une session, on se sépare, on revient. Quand on veut, on dit non. Il faut attendre, établir un calendrier en fonction des sujets importants à débattre. Et qu'on puisse même en débattre, même si c'est 2, 3, 4 jours, et qu'à la fin, on anime une conférence de presse avec les journalistes pour expliquer le contenu de ce que, pourquoi, quel est le point a été discuté, à quelle conclusion en sommes-nous arrivés et pourquoi cette conclusion. Voilà la nouveauté que nous voulons imprimer, avec, bien sûr, si le gouvernement est prêt à nous accompagner là-dessus. La deuxième chose, les sujets importants que les Togolais vivent, les questions de vie, économique et sociale, ne doivent pas être également écartées. Nous sommes des formations politiques. Le gouvernement a en charge la gestion de notre pays. Est-ce qu'on en est heureux? Aujourd'hui, il y a des questions d'ordre foncière. Il y a des questions de santé. Il y a des questions, beaucoup de questions qui sont importantes. Chaque parti politique, en réalité, doit avoir intégré cette réflexion en son sein. Donc, en dehors de ce que l'actualité nous impose comme thème, nous devons nous-mêmes nous inviter sur certaines thématiques importantes qui nous rapprochent de nos populations. Voilà au moins deux volets sur lesquels nous comptons agir. D'abord, comment rendre dynamique ce cadre de concertation et ensuite comment diversifier les sujets de discussion.
D'accord. Abbas.
Vos ambitions en tant que président du MCD et qu'est-ce que vous attendez du pouvoir également?
Non, mais mes ambitions à ce niveau-là ne sont pas contraires à celles qu'attend le peuple togolais. C'est de voir beaucoup de réponses à cette question. Cette question de vie, la question de l'ordre institutionnel qui se pose à nous et tout ce que nous vivons. Donc, à ce niveau-là, le MCD n'a pas plus d'ambition que ce que les Togolais ont dans leur majorité. Donc, si nous arrivons à apporter un minimum dans ce laps de temps, je crois qu'on aura rempli notre mission.
D'accord. Abbas?
Je pense que votre angle d'explication par rapport au CPC a écouté même beaucoup qui parlent d'un cadre qui est comme un marché de pipe. Et que ce cadre a été créé pour faire endormir l'opposition. Parce que durant tout le temps, les dialogues ont lieu, on a vu l'évolution de ce dialogue et les conclusions de ce dialogue, les recommandations dont j'avais été mises en œuvre. Aujourd'hui, tout le monde se retrouve dans ce cadre et beaucoup qui étaient là, il y a deux partis qui étaient là qui ont refusé de venir participer. Et ça fait qu'on parle d'un cadre de but pour nous faire endormir l'opposition sur la question dans ce cadre. Qu'est-ce que vous répondre à cela?
Notamment la NC, la EFDR, qui boycotte le cadre.
Ce que je peux dire, chaque parti a sa stratégie, chaque parti a sa vision. C'est trop facile d'accuser le cadre de marché de dupes, parce que c'est l'argument pour s'en extraire. Mais ces formations politiques, pour la plupart, ont fait partie de ce cadre et ont fait des propositions assez importantes. Ils ne sont pas restés un jour. On a travaillé avec ce parti pendant des jours, avant qu'aujourd'hui on ne les retrouve plus avec nous. Et nous faisons le vœu. Peut-être que pour le moment, les thématiques inscrites ne les intéressent pas. Le cadre les invitera toujours à nos réunions jusqu'à ce qu'ils répondent ou pas. Parce que c'est la volonté. On ne peut pas forcer quelqu'un à venir à ce cadre-là, mais dire que c'est un cadre, un marché, de dupes, mais c'est quand même osé. Vous croyez que nous qui allons là-bas, ces gens n'ont rien à faire? Quel est l'intérêt pour nous d'aller nous donner un spectacle si ce que nous allons y faire n'a pas d'importance pour le pays et pour nos partis en particulier? On n'a même pas de perdième. Au départ, on avait posé les questions pour dire est-ce que, bon, ceux qui vont participer, est-ce qu'on a dit on n'en veut pas. Vous savez, les Togolais, il suffisait qu'on vous dise, bon, voilà, à la fin de chaque session, vous avez des jetons de présent, c'est ça qui vous amène à aller discuter. Non, il n'y a pas de ça. À part l'eau qu'on nous met sur la table pour discuter, des heures durant, nous avons activé avec le pouvoir, je ne sais pas quel est l'intérêt que ces partis-là vont. Donc, il faut que, vous savez, la stratégie, comme je l'ai dit, elle est diversifiée. Il y en a qui peuvent être en dehors de ce système, développer des stratégies gagnantes pour notre pays. Nous voulons que, quel que soit le positionnement dans lequel un parti se retrouve aujourd'hui, qu'il puisse dire aux Togolais sa démarche pour délivrer le Togo. Ça veut faire des propositions, des dénonciations, dire que ce n'est pas bon. Alors, s'il n'y avait pas ce cadre aujourd'hui, pour revenir à ça, la nature de notre Assemblée nationale, qui vient d'être élue, sur 113 députés, à peine 5 de l'opposition et 2 même ne siègent pas. Quel débat peut avoir à l'Assemblée nationale? Et prenez en compte également le calendrier électoral. Si cette constitution-là venait à s'appliquer de manière entière, nous avons 6 ans pour aller aux législatives. Pendant les 6 années, où est-ce qu'on va débattre des questions d'ordre politique? Chaque parti resterait dans son camp avec ses slogans, ses manifestations, ses déclarations, ses communiqués. Et qu'est-ce que cela changera pour le pays? Donc ce cadre-là aujourd'hui devient pour nous comme un exutoire. À défaut d'avoir un cadre dans lequel il peut avoir un débat démocratique crédible, nous pouvons nous exercer ici et attirer cette majorité de l'Assemblée à apporter des changements tant qu'on le peut.
D'accord. Maître, toujours dans ce sens, c'est vrai, dans le sens de la question de mon confrère Abbas tout de suite, il y a de quoi qui pensent que, en fait, il y a certains qui ont répondu à cette rencontre ou dans ce cadre, certains partis politiques hein, qui sont considérés peut-être comme des partis, des partis satellitaires, c'est l'expression utilisée hein, par certains, alors, parce que c'est un cadre qui leur permet d'exister. Qu'est-ce que vous répondez? Dit à ces gens-là.
D'abord, le critère de sélection pour être au CPC, c'est d'avoir participé à au moins une des dernières élections, quelle que soit la nature. Donc, le critère est clair. Je ne sais pas, tous ceux qui ont été à ces élections-là sont allés à voter pour unir. Chacun allait requérir le suffrage pour son propre camp. Donc, je crois que bon, mais ce discours-là de bas étage, j'aime pas trop descendre là-dedans. Parce que si on peut parler de faux opposants, d'opposants, de plaisantins, c'est qu'il y a des journalistes également. Il faut éviter cette rhétorique-là qui ne nous avance pas. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec lui qu'on lui colle le label de faux ou de plaisantin. On n'a pas tous la même vision, on n'a pas la même stratégie. Chaque parti est différent de l'autre parce qu'il a quelque chose d'autre à offrir. Sinon, on serait tous dans le même parti. Alors, qu'on respecte au moins cette liberté que les gens ont de s'associer, de s'exprimer et de se comporter. Qui a le label aujourd'hui pour discerner les diplômes de vrais ou de faux opposants au Togo? Non, il faut qu'on arrête. Selon la charte des partis, un parti d'opposition, tout parti politique qui ne participe pas à l'action gouvernementale en dehors des cas de gouvernement d'union nationale. Parce qu'il y a une crise, on peut mettre en place un gouvernement d'union nationale et tous les partis peuvent concourir à gouverner selon les accords qu'on a obtenus. Mais en dehors de cette situation, tout parti politique qui ne participe pas à la gestion de de l'État est un parti d'opposition. Maintenant, les différences d'appréciation, les différences de programmes, les différences de stratégies ne peuvent pas nous amener à quelqu'un qui est dans l'air décerne des diplômes de faux ou de vrais opposants aux gens. Il n'a qu'à venir faire la démonstration de ce sur quoi son analyse repose et qui est-il pour pouvoir savoir qui est de l'opposition et qui ne l'est pas.
D'accord.
Oui, maître, pourquoi est-ce que vous ne discutez pas dans ce cadre de la question des prisonniers politiques et des exilés politiques? Parce que nous sommes revenus sur le sujet ce matin dans notre parution et nous sommes posés mille et une questions. C'est-à-dire, nous nous sommes demandé qui a intérêt à voir peut-être un certain Akila Essoboko retrouver un jour son pays aussi en cercueil, comme l'avait vu comme Monseigneur Podro. Ou qui a intérêt un jour à voir peut-être la dépouille, je touche du bois, bien sûr, hein, la dépouille de Tipi Achadam, par exemple, revenir, retourner dans son pays, comme on l'a vu, hein, comme et dans le cas de Agbéo Mekojo. Donc, aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous ne discutez pas de la question des prisonniers politiques? Parce qu'ils en sont pleins aujourd'hui. Hein, dans les prisons du pays, nous l'avons cité il y a quelques jours, Jean-Paul Omolou, Aziz Goma, mais une dame qui allaitait, qui était... Ils sont nombreux aujourd'hui. Pourquoi c'est la question ne revient pas dans ce cadre-là?
Vous savez que, comme je le disais, ça fait partie d'une des recommandations, je crois, la recommandation numéro 97, je crois, de la CNAP, qu'il faut libérer tout ce qui a été condamné par la justice togolaise dans le cadre des manifestations politiques depuis 2017 à ce jour. Et ça a été mis en œuvre. À l'époque, on a libéré ceux qui ont été jugés. La difficulté à laquelle peut-être on est lié aujourd'hui, qu'on ne comprend pas, vous et moi, on ne comprend pas, c'est que pour que le président de la République exerce sa grâce présidentielle, il faut que les gens soient jugés.
Et condamnés.
Mais pourquoi on évite de les juger? Mais comme vous le pouvez, la question est inscrite à l'ordre du jour. On en débattra. Donc la question des détenus. Maintenant, la question épineuse des réfugiés politiques, oui, est entière. Parce que quand vous prenez les dispositions de l'ONU, un réfugié politique a une qualification bien claire. Il doit être dans un pays protégé par ce pays-là, avoir le statut de réfugié politique. Donc il nous faut un exercice, savoir d'abord qui est réfugié politique et quelle est la nature des relations qui unit le pays dans lequel il est et son besoin de retour. Donc si nous pouvons faire l'effort d'avoir au moins cette clarification, ce serait plus facile pour les partis politiques de l'opposition de faire le plaidoyer pour organiser le retour. C'est une question qui revient toujours. Mais il faut regarder à trois niveaux. Quel est le statut du HCR par rapport, c'est-à-dire ce que dit le HCR par rapport aux réfugiés politiques? Quel est l'attachement qu'ils ont avec le pays dans lequel ils résident? Et quel est leur besoin de retour? Comment ça s'exprime? L'ensemble de ces questions-là doivent être clarifiées. Je crois qu'il est du rôle de l'ensemble des partis politiques et des journalistes d'attirer l'attention de tout le monde pour que ces questions puissent être évoquées. Quand on a évoqué la question des réfugiés politiques, la question qui doit être posée par le gouvernement, qui est réfugié politique à l'époque? Mais quand on analyse à l'aune de ce que je viens de dire, on se rend compte parfois, on peut se fourvoyer. Mais il faut que nous ayons une idée claire. Qui sont ceux qui répondent à ce critère de réfugiés politiques? Où sont? Quelle est la nature de leur pays? Est-ce qu'ils ont besoin de retourner? Est-ce qu'ils en ont exprimé la demande? Et tout cela, on saura comment. Peut-être qu'il faut créer une structure associative qui va gérer ces questions-là et aider les partis politiques à les prendre en compte dans leurs revendications. Peut-être que c'est ce à quoi il faut arriver.
D'accord. Est-ce que...
Oui, et je voudrais rebondir un peu sur la question de l'absence de certains opposants dans le cadre. L'Assemblée nationale dans un pays est le cadre par excellence du débat démocratique. Voilà. Mais force a été de constater qu'au lendemain des élections législatives, deux partis de l'opposition, notamment les FDR et puis l'ANC, ont refusé de siéger. Maintenant, le cadre permanent de concertation existe et se substitue en quelque sorte à ce cadre de débat-là en l'absence du siège de ces deux partis politiques au Parlement. Mais ces partis refusent également de siéger au sein du cadre. Voilà. Est-ce que vous comprenez un peu leur démarche et est-ce qu'à votre niveau, vous envisagez des actions personnelles pour les comprendre mieux et les amener au sein de ce cadre-là pour qu'ils puissent participer en fait à ce débat démocratique.
C'est de grands partis politiques. C'est de grands partis politiques qui ont à leur tête de grands leaders et qui ont leur démarche propre. Nous, le désir qu'on peut exprimer est de voir tout le monde nous rejoindre. Plus on est nombreux, plus on pèse. Et leur présence à nos côtés, dans la posture qui est la leur en tant que parti élu à l'Assemblée, mais qui ne siège pas, aurait pu nous apporter un plus dans les discussions pour peser l'eau dans la balance. C'est le vœu qu'on fait qu'ils viennent. Mais nous n'avons aucun moyen de contraindre des formations politiques aussi respectables que l'ANC ou le FDR à faire ce que leur ligne politique, leur démarche politique leur interdit. Mais nous faisons le vœu qu'ils trouveront un jour raison gardée pour nous rejoindre et continuer ce combat-là en interne. Parce que nous avons beaucoup de choses. Le pays souffre. Le Togolais souffre. Et on ne va lésiner sur aucun moyen. Et par ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, aucune stratégie n'exclut l'autre. On peut être au CPC et développer une autre stratégie dans la rue si on veut. Rien ne nous interdit quand on est au CPC de ne plus mener une autre démarche, une autre stratégie qui soit différente de celle qu'on mène. C'est un cadre de discussion. Mais les partis politiques restent libres de leur mouvement et de leur calendrier, leur travail.
Abbas, une question ?
Oui, ma question peut-être que le CPC a été créé sous la 4e République, avec des tests, certainement avec un règlement intérieur qui est arrivé à la Constitution de 1992, modifié. Aujourd'hui, on est en train d'aller dans la 5e République. Est-ce que les tests qui régissent le fonctionnement du CPC seront arrivés aussi à la dernière Constitution?
Non, d'abord, le CPC, le constat qu'on a fait la dernière fois, c'est qu'il faut réviser déjà, l'arrêter. Parce que le bureau qui doit comporter normalement 4 membres, c'est réduit à 3.
Hein? Parce qu'il n'y a pas
la société civile.
Civile, voilà.
Ouais. Hein? Il n'y a pas la société civile. Donc, il faut qu'on l'inscrive à l'ordre du jour. Ça va peut-être la prochaine réunion, le premier test qu'on va réviser. Et peut-être encore, et puis élargir, voir le cadre, tout ce que nous avons proposé, pouvoir rendre dynamique ces choses-là pourront intégrer ce cadre-là.
Oui, continuez.
Il y a la DMP qui a fait des propositions par rapport à l'élargissement du cadre, que ce cadre-là devienne un cadre de dialogue beaucoup plus élargi.
Oui, nous avons pris en compte également cette proposition-là. On va en débattre pour voir vers où on doit aller. Où est-ce qu'on peut aller débattre de cette question d'élargissement et de créer un cadre national de discussion, si ce n'est au CPC? Donc, moi, je crois que, voyez l'importance du débat actuel autour de ce cadre-là, ça devient même inévitable. C'est une chance qu'il faut saisir. Toutes les propositions sont là. S'il faut migrer vers du CPC, vers un cadre plus large, on en débattra, on verra bien le besoin, la nécessité et quelle est la finalité. Ça sera débattu.
D'accord.
Est-ce que le CPC ne marche pas presque sur les cendres donc de ces CPDC? Puisque nous avons CPDC, on a un CPDC rénové, on a un CPDC élargi, finalement on a un CPDC fini, c'est-à-dire que ça n'existe plus.
Non.
Est-ce que nous n'allons pas vers là, avec le CPC?
Non, ce n'est pas la même connotation. Les CPDC étaient des cadres qui sont créés de manière ponctuelle. Quand vous prenez d'abord la CNAP, qui a conduit au CPC, ça répond beaucoup plus à une des recommandations des accords de Ouagadougou,
de la PG,
qui a dit qu'il faut mettre en place un cadre permanent de discussion et de dialogue. Donc c'est dans ce cadre-là, cet esprit-là, que la CNAP a été mise en place, alors que les autres sont créés de manière ponctuelle pour répondre à une question, et puis bon, ça a disparu avec le temps. C'est pour ça que celle-là doit continuer dans le temps, elle continue dans le temps, et on doit pouvoir en tirer profit.
Alors, maître, je vous livre ces propos du président de la République, Faure Gnassingbé. Notre ambition stratégique est d'être un État fort, visionnaire et protecteur. Et c'est le propos alors du président de la République tout récemment en Chine lors du FOCAC 2024. Et en marge alors des travaux, hein, il y a une rencontre qui a été organisée et c'est la rencontre sur le forum sur la bonne gouvernance. Et le président de la République a été invité en tant que invité spécial pour parler de la bonne gouvernance. Et c'est là où il a décrit tout ce qui se passe au Togo en tant que réforme. Et il a parlé même d'ailleurs de la nouvelle constitution. Et je le disais hier, c'était dans une clarté, une compréhension quand même qui ne dit pas son nom. Finalement, on dirait tout simplement que le chef de l'État maîtrise bien la nouvelle constitution et peut-être que ça émane de lui.
Mais écoutez, c'est lui qui gouverne quand elle a été adoptée. Et si il ne voulait pas d'elle, elle ne serait pas adoptée. Vous savez, là, quand vous voyez la référence que nous utilisons souvent, c'est la France. C'était la 4e République avant, avec un régime parlementaire. De Gaulle est venu trouver qu'avec ce qui s'est passé avec le régime de Vichy, il fallait changer et il a imposé la nouvelle constitution à la France. Vous savez que ça n'a pas été facile pour les Français d'adhérer à la 5e République. Il y avait toute la gauche qui était vent debout contre la 5e République. Donc ce que nous disons, c'est si les porteurs de ce projet, les Togolais ont besoin de savoir l'esprit qui a animé de convaincre les Togolais de ce qui n'a pas marché dans la 4e République et de ce que la 5e République nous propose de nouveau. Ce travail de communication doit être fait pour convaincre les Togolais. Maintenant, sur le texte de cette constitution, si on veut créer un État fort avec des institutions fortes, qu'on ait le courage d'en débattre, de voir est-ce que cette constitution répond à ces ambitions-là. Est-ce qu'elle répond à ces ambitions? Est-ce qu'elle a besoin, on a besoin de ça pour faire un État fort où il faut changer les modes de gouvernance au Togo, combattre la corruption, être plus attentif à ce que les Togolais attendent, diversifier nos ressources au niveau économique, prendre en charge la gestion du pays, parce que le développement du territoire laisse à désirer. Donc toutes ces questions-là doivent être prises ensemble dans cette ambition-là. Ça, il l'a dit en Chine, mais nous attendons en tant que Togolais de voir dans les faits comment cela va se traduire. Donc, nous attendons toujours.
D'accord. Maître, si nous sommes invités, ou le président de la République a été invité en tant que invité spécial hein, pour cette question de bonne gouvernance, est-ce que ça veut dire que le Togo est un modèle dans cette question, sur cette question de bonne gouvernance?
Vous savez que les critères édictés par la communauté internationale pour déterminer quel pays est dans la bonne gouvernance et le vécu de ces pays-là par les populations, ce qu'on vit à l'intérieur, parfois il y a
des contradictions.
Donc, si on l'a invité en tant qu'invité spécial pour aller de la bonne gouvernance, c'est en fonction de cette mission de notation qui note un certain nombre de critères dans lesquels le Togo a pu être célébré comme exemple. Il n'a pas manqué de dire que les femmes ont toute leur grande place au Togo. La première ministre qui est là depuis des années, pour la première fois, et puis la question de parité, tout cela, sont des critères que la communauté internationale attend. Mais ce que nous disons, au-delà de ces critères définis par la communauté internationale, que faut-il faire pour que les Togolais se sentent mieux dans leur liberté et dans leur liberté d'action? Qu'on soit libre, qu'on vive mieux, qu'on ait le minimum pour satisfaire à nos besoins primaires. Ça veut dire se nourrir très bien, se vêtir, se soigner et éduquer les enfants. Voilà. Et avoir du travail pour les jeunes. Voilà les questions sur lesquelles les Togolais restent toujours attentifs. Et si on arrive à les régler ou au maximum à commencer par les résoudre, on aura fait des pas de géant.
Maître, il y a la Chine qui a accordé 50 milliards de dollars au cours de ce forum à toute l'Afrique, le continent bien sûr. Et donc, c'est quand on prend même d'ailleurs cette question de prêt ou du moins de partenariat où des puissances extérieures nous accordent alors de l'argent, je veux bien parler du continent tout entier, est-ce que ça nous permettra vraiment de nous développer?
Toute la question est là aujourd'hui entre tous les discours sur le panafricanisme ou le nationalisme et la réalité économique et géopolitique. Quoique le débat aujourd'hui sur le panafricanisme doit revisiter les premiers auteurs de cette question-là qui avaient défini une ligne très claire. Prenez les Aimés César et consorts, les Saint-Dor. Pour eux, au-delà de nos frontières, c'est qu'il faut bâtir des stratégies qui permettent à chaque pays de profiter de ce que l'autre a et qu'on n'a pas chez soi. Quand on prend les 50 milliards que la Chine a apportés, est-ce que nos pays ont dit non? Parce qu'effectivement, ils avaient besoin de cet argent. Donc, entre le réalisme et le vœu de se prendre en compte, il y a un cap. Il y a un travail à faire de construction d'une économie forte. On n'en est pas encore là. Les 50 milliards, moi, mon inquiétude, c'est que quand on les diversifie dans le projet et par État, ça devient insignifiant. Mais que font nos institutions au niveau africain et régional pour que cet argent-là serve une idée panafricaniste? Je donne un exemple. Les pays du Sahel, qui sont maintenant dans l'AES, pour la plupart, au moins le Burkina et le Niger, viennent chercher leurs produits au port de Lomé. Quel est ce projet? C'est-à-dire quel est le projet que le Togo peut bâtir en comparaison avec le Niger et le Burkina, pour que ces marchandises-là puissent aller vers eux en moins de temps et de manière efficace. Donc il faut construire et la route et le chemin de fer. Donc il faut se mettre en commun. Pour c'est un projet indispensable, on pèsera plus lourd. Et quand il y a trois pays, quatre pays qui se mettent sur un projet, c'est plus efficace que chaque pays aille avec sa petite ardoise pour dire, voilà, mes besoins, dans les 50 milliards, là, moi, j'ai besoin de ceci. Mais ça ne servira à rien. D'accord. On va augmenter la dette du continent, on ne s'en sortira pas. Donc, le panafricanisme que nous attendons de tous nos voeux, c'est que ça se fasse sur des projets. Que aujourd'hui, les pays du Sahel, ils ont du pétrole, ils ont des minerais, mais nous, qu'est-ce qu'on en a chez nous? Quel type de structure économique qu'on peut monter de manière ensemble, c'est-à-dire mettre les ressources ensemble pour exploiter ces ressources au profit de l'ensemble de ces pays. Voilà, moi, le panafricanisme auquel je rêve.
D'accord, ce serait un rôle de complémentarité en quelque sorte. Alors, maître, nous venons de passer plus d'une heure de temps, 60 minutes de temps en discussion, dans cet entretien. Nos compatriotes nous ont écoutés, ils ont certainement des questions à vous poser. Nous allons aussi leur donner la parole, parce que c'est le principe de l'émission, et c'est sur le 90 86 35 35 80 11, 36, 63, 75, mais bien avant, nous allons faire un clin d'œil à nos annonceurs.
93.5. Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 ou 91 36 63 75. Je rappelle tout simplement que nous sommes avec Maître Tassouna Traoré qui est le président du CPC, également président du MCD. Vous pouvez nous poser des questions. Maître, je vais vous prier alors de porter votre casque qui est devant vous pour écouter mieux nos concitoyens.
Allô, bonjour.
Bonjour, monsieur Gado, comment vous allez?
Ça va très bien, maître, bonjour.
Bonjour.
Oui, mais j'ai trois questions.
Ouais.
Qu'est-ce que vous avez pu obtenir une fois dans ces cadres-là? Depuis que ces cadres-là sont créés, il y en a plusieurs. Qu'est-ce que vous avez pu obtenir pour la population? Deux, pourquoi on a créé ce cadre, la cause de la création de ces cadres? Trois, vous savez pourquoi les cadres-là existent aujourd'hui? C'est à cause des élections mal organisées. Sinon, on n'a pas besoin de tous ces cadres. Répondez-moi, merci, bonne journée.
Alors, merci pour votre question, vos trois questions. Et Maître va se charger alors, de répondre dans un instant. Mais bien avant, nous recevons notre auditeur. Allô?
Bonjour, Pascal.
Oui, bonjour, Basile. Comment vous allez?
Bonjour. Bon. Vous avez posé la question, je ne sais pas si c'est vous qui avez posé la question. Le chef de l'État a été invité là-bas à cause de la bonne gouvernance. Et il a dit les raisons pour lesquelles cela passe, on est dans la bonne gouvernance. Ce qui, vraiment, ne peut pas être le cas avec l'écrasante majorité de la population. Pourquoi est-ce que eux, les leaders, quand il y a des faits, classements, des faits choses que le gouvernement ne sait pas quel moyen les avoir, pourquoi eux, ils ne sachent pas à démonter ça? Est-ce qu'ils pensent qu'avec cette méthode-là, ils peuvent arriver au pouvoir un jour? Ils sont toujours, disons, des brèches avec le gouvernement quand le gouvernement s'appelle à avoir ces classements. Pourquoi eux, ils ne disent rien aux yeux du monde? Je peux parler de beaucoup de choses, mais ça m'est très, vraiment très important. Il faut qu'il me réponde à ça.
D'accord. Merci beaucoup, Basile. Votre question prise en compte, 90 86 35 35 91 36 63 75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez réagir. Allô? Allô, bonjour.
Allô, bonjour.
Comment vous allez?
Oui, ça va.
Votre nom?
C'est Vincent de Kougan.
Vincent, depuis Kougan. Allez-y.
Je voulais poser une question à M. Maître.
D'accord, allez-y.
Je voulais vous demander pourquoi c'est lui qu'on a choisi. Et le jour-là, il a dit que la 5e République-là est déjà finie. Les prisons n'ont pas se reposer. Pourquoi il a dit ça? Il n'a qu'à expliquer ça.
Vous avez suivi l'émission en totalité?
Oui. Mais c'est ça, je dis qu'il a dit, ça, l'autre fois.
Oui, mais on lui a posé la question. C'est pourquoi je lui ai demandé si vous avez.
Il n'a pas bien répondu. Il n'a pas de répondu. Il n'a qu'à répéter, il n'a pas de répondre.
Non, mais attends, il faudrait. Non, Vincent. Oui. Vincent, il est parti, mais on est avec quand même des responsables. Et il est très important quand même que vous sachiez raison garder. Et quand on veut s'adresser, il faut toujours de la courtoisie. C'est très important. 90 86 35 35. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour.
Comment vous allez? Votre nom, c'est?
Cyprien.
Cyprien, vous nous appelez de quel quartier? Cyprien, allez-y.
Merci. Maître Kessona.
Oui.
Vous et moi, Dieu, le Seigneur ne nous veut jamais dire quand est-ce qu'il va revenir. Mais depuis que vous êtes au CPC, c'est vrai que le Seigneur nous disait quand est-ce que vous avez pu obtenir. Mais est-ce que vous allez toujours être au CPC? Vous étiez simplement, vous êtes coordonnateur. Vous avez laissé le rapporteur général au gouvernement. Qu'est-ce que les textes sont écrits? Vous allez rester jusqu'à quand? Parce que le CPC est créé avant les élections présidentielles. Ça fait 5 ans. Les élections ont eu lieu. La constitution est passée. Et aujourd'hui, êtes-vous optimiste? Quand on crée ce cadre permanent, est-ce que ce n'est pas en période de crise? Si c'est cela, autant que vous puissiez nous entendre avec le pouvoir pour que chaque parti, quel que vous êtes présent, pour les partis politiques, tous les 6 mois, vous gouvernez le pays ensemble, que chacun est leader, coordonnateur du gouvernement de l'État. Nous allons nous entendre en tant que population pour consacrer une constitution, une taille position en tout effet. Comme ça, vous allez tous gérer le pays ici à chaque fois. Il y a des partis qu'on a vus sur la table la fois dernière qui ne venaient même pas dans le débat politique. Est-ce que vous êtes vraiment sur la main, sur le
cœur? Cyprien est parti. Cyprien, votre question a été prise en compte. Allô?
Oui, allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Oui, ça va, chez vous.
Ça va aussi, votre nom c'est?
Ça, Apollinaire depuis Nukafu.
Oui, Apollinaire depuis Nukafu. Apollinaire, allez-y.
Oui, bonjour, maître.
Bonjour.
Oui, j'ai une question avec vous. J'aimerais savoir quelle garantie que vous pouvez nous donner si, pour moi, vous, qui êtes le président du CPC actuellement, là, quelle garantie que vous pouvez nous donner qu'après trois mois, là, on va voir que la meilleure, les choses vont changer. En plus, je vous dis,
D'accord. Ok, merci Apollinaire pour votre intervention. 90-86-35-35. Allô? Allô? Oui, bonjour.
Comment tu veux?
90-86-35-35,
91-36-63-75.
Allô?
Allô? Allô? Allô? Achever comme ça.
Oui, vas-y, vas-y.
Il ne pense pas que, maître, je ne pense pas que si nous, si on achète le gaz aujourd'hui à 2 millions, on achète le centre à des prix raisonnables, tout cela. Et quand on parle de cette question, est-ce qu'on va parler? On ne va pas parler. Pourquoi c'est ici que tout est cher? Le seul Togo, qui est spécifique, le seul Togo, parmi les autres pays dans la co-région. C'est ici seul que les choses sont chères et puis le pouvoir d'achat est presque inexistant. Mais on nous parle de bonne gouvernance. Pourquoi est-ce que nous, on va avaler parce qu'on va avaler que c'est ça? Et il ne pense pas que si, au moins, il n'y a pas cette situation-là, on peut croire en ces choses-là.
Merci. Merci beaucoup, Basile. Michel, nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur. Allô?
Oui, le dernier auditeur, c'est Abdel.
Oui, Abdel.
Bonjour à notre invité, Tchassonato.
Bonjour, monsieur Abdel.
Je voudrais vous remercier pour votre réalisme. Vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale, mais vous avez l'opportunité de prendre la tête du CPC. De faire en sorte que certaines décisions soient prises en faveur du peuple togolais. Alors, est-ce que vous ne pouvez pas œuvrer et faire des démarches pour que l'appellation opposition soit changée, aller dans le sens de la droite ou la gauche, ainsi de suite, parce qu'on a l'impression que cette appellation-là crée un antagonisme permanent entre le pouvoir et l'opposition. Ce n'est pas intéressant. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans l'opposition, on ne doit pas avoir de traité avec celui qui est au pouvoir. Ce n'est pas, en politique, ce n'est pas intéressant. C'est ce qui fait que c'est difficile pour certains partis politiques de travailler avec le pouvoir. Alors que ensemble, nous sommes tous des Togolais, on a de bonnes idées, comme vous en avez également. Vous les avez dites ici, et moi j'en suis très fier que quelqu'un comme Tchassoma a de très belles idées, mais il faut pouvoir travailler avec le pouvoir et faire en sorte que ça aille de l'avant.
D'accord.
C'est tout ce que je voulais dire.
Abdel, merci beaucoup pour votre intervention. Je pense que Abdel, c'est le dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission. Et merci à vous tous qui avez réagi à travers nos deux numéros pour poser des questions à Maître Tchassouna Traoré. C'est vrai, maintenant nous allons donner la parole à Maître pour répondre aussi à ces différentes questions. Maître, il y a Monsieur Gado qui posait la question d'abord de savoir. Alors, qu'est-ce qu'il fait qu'on a initié le CPC?
Non, j'ai déjà répondu à cette question dans la première partie de ce débat en expliquant que c'était une des recommandations d'abord des accords de Ouaga.
Tout à fait.
De mettre un cadre qui soit permanent où les Togolais se retrouvent, la classe politique se retrouve pour échanger.
Doucement. Voilà. Nous allons vous donner quelques temps pour prendre alors de l'eau et répondre justement à la question de monsieur Gado. Voilà. Tout à fait.
Alors, question de cette autre recommandation, que ce cadre a été mis en place.
Tout à fait.
Maintenant, qu'est-ce qu'on a pu obtenir?
Parce que la presse en son temps,
a publié toutes les recommandations qui ont été prises, les 100 presque recommandations qui ont été prises et qui ont été traduites presque à 95% dans les faits.
Tout à fait.
Y compris même la libération des prisonniers politiques qui étaient déjà jugés. Donc cette question qui restait en suspens et qui, comme encore cette fois-ci, nos compatriotes qui sont encore en prison, nécessite qu'on continue le débat pour régler ces questions. Donc,
ce que nous allons faire, c'est que on va ramasser ces questions pour vite finir, surtout quand on voit bien les conditions. Je pense tout simplement qu'il y a la fraîcheur également qui vous dérange, mais on va juste ramasser en quelques minutes seulement pour répondre aux
autres. Au de la mauvaise gouvernance au Togo, je crois que c'est l'œuvre de tout le monde. La société civile fait abondamment dans la dénonciation. Les journalistes le font également. Je crois qu'aujourd'hui, ces questions-là ne peuvent pas échapper au débat dans les cadres comme les nôtres. C'est pour ça que nous disons qu'au niveau des thématiques, il faut diversifier, venir sur des questions qui intéressent les Togolais. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Il n'y a plus à avoir des sujets qui sont délaissés de côté. Donc, nous pouvons faire l'effort d'inviter ces questions. La question de la vie chère également, c'est un problème qui nous préoccupe tous. Nous sommes surpris qu'au Togo, il n'y a pas de contrôle de prix. Les commerçants fixent leur prix comme ils veulent, il n'y a aucun contrôle qui soit fait. Parce que quel est le rapport qu'on fait entre la commande d'une marchandise et des frais qui vont avec et le prix qu'on fixe à la fin? Donc le ministère du Commerce
Excusez-moi, il n'y a pas de souci.
Il y a une direction qui s'occupe de cette question. Doit pouvoir faire son travail à tous les niveaux. Maintenant, pour la question d'appellation opposition gauche-droite,
c'est Abdel.
Je crois que ça n'a rien à voir. Qu'on soit de gauche ou de droite, ça n'empêche pas d'être opposant à un moment donné. C'est une question temporelle. Il n'y a pas de statut, l'opposition n'a pas un statut statique. C'est la position dans laquelle on se trouve à des questions de gouvernance, à la gestion du pays qui détermine le statut. Le gouvernement actuel peut devenir demain opposant, ainsi de suite, en fonction des changements qui peuvent intervenir après les élections. Mais la gauche et la droite, c'est en fonction des lignes idéologiques. Le libéral ou les questions d'ordre environnemental de l'autre côté et puis socialiste de l'autre côté. Donc ceux qui évoluent dans ce cadre-là se retrouvent soit dans la gauche, dans la droite ou au centre, en fonction des dosages qu'on peut retrouver au niveau du libéralisme et des questions d'ordre, c'est-à-dire l'idéologie socialiste ou communiste. Donc ça, ces questions-là vont venir après. En réalité, là, le débat qui est au Togo, c'est qu'on se bat pour un changement majeur, l'alternance, la démocratie. Ces questions n'ont pas de clivage. Ça intéresse tous les Togolais. Mais en réalité, quand vous rentrez dans le discours des partis politiques, vous allez retrouver que soit c'est des partis qui font de la social-démocratie, soit qui sont des libéraux, ou qui sont des tendances socialistes. Mais pour le moment, cette clarification ne remonte pas à la surface compte tenu du besoin actuel d'apporter des changements majeurs au niveau institutionnel.
D'accord. Oui, mais nous sommes presque à la fin de cette émission. Sylvestre?
Non, j'aurais aimé quand même aborder un article sur notre parution, mais le temps étant contre nous, je voulais faire un clin d'œil à tous les supporters des Éperviers. Voilà, ça a été difficile, mais nous avons titré ce matin les nuls de l'espoir. Les nuls de l'espoir, c'est-à-dire que nous avons eu deux matchs nuls, mais on garde l'espoir parce que vu les conditions dans lesquelles nous avons travaillé, préparé ce match et tout, avec un entraîneur, un nouveau qui découvre presque l'effectif et tout. Donc, ces deux nuls-là, ce sont presque un exploit. Hein, c'est des exploits. Et on espère qu'on sortira au moins deuxième. Au pire des cas, un deuxième quand même de notre poule. Et puis, préparons déjà psychologiquement qu'on sera à la CAN.
D'accord. Voilà. Et nous nous préparons pour cela. Abbas?
Vraiment, c'est un 8 sur 10 aux Superbies, parce qu'ils ont tenu.
8 sur 10, hein.
Par rapport au temps de préparation avec le nouveau coach, je pense qu'ils ont tenu. Il y a eu certaines maladresses devant la défense. Nous aussi, on va avoir 6 points maintenant. Parce qu'on va battre l'année de Bura ici.
Mais c'est très facile de le dire quand même, hein, qu'on devrait battre.
Oui, je dis, nous étions certaines.
Ah, d'accord, ok, je comprends. Oui, je sais. Oui.
Nous étions certaines maladresses devant la défense. Parce que nous, en Guinée, c'est la même chose. On a raté 3 occasions nettes de but comme ça.
Nettes, vraiment.
Avec un débordement de Karim Derlan qui fait un centre que Evra rate. Seul en face du gardien. Donc, c'est que nous étions 16 gens de Valdez. Nous aussi, on se reconnaît l'Algérie qui a déjà 6 points.
Voilà. Dans notre pays. D'accord.
Donc, après Darwin, déjà un entraîneur.
Oui, c'est ce que. Tout à fait, oui. C'est votre passion.
C'est ma passion. Vous aurez mis également quand même beaucoup plus de temps pour disséquer un peu les deux prestations des Éperviers, mais. C'est pas grave, on va leur souhaiter bonne chance. Je crois qu'on ne peut pas aller tout de suite en accusation, puisqu'il faut dire que Barré n'a pas eu le temps vraiment de livrer des matchs amicaux pour savoir qui est qui fait quoi. Mais sur les deux matchs, on a vu quand même quelques petits soucis de marquage surtout. Mais je crois qu'on a le temps maintenant, au moins un mois avant la rencontre avec l'Algérie, que l'analyste vidéo revoit à peu près tout ce qui s'est passé sur les deux prestations pour corriger, rectifier le tir. Et on reste confiant quand même que... Même si ça passe ou ça casse, au moins la deuxième place, on va l'occuper. Comme on l'est déjà, à la suite des deux journées, on occupe la deuxième place du groupe. On espère, à défaut de remonter la première place, on va garder quand même la deuxième place pour retrouver les crampons au Maroc en 2025.
Donc,
avec certitude. Oui, on reste optimiste. Mais je voudrais aussi avoir quelques secondes pour dénoncer un peu, faire un niveau de banque là, sans communication, le fait de remplir des fiches là, à mon
cœur.
Sincèrement, je crois que ça, excusez-moi d'aller un peu fort, ça agace un tout petit peu, puisque les informations qu'on demande, c'est les informations que la banque a déjà, à l'exception de deux questions, l'origine des fonds et la destination. Il faut réduire un peu le temps. Si tu vas faire juste deux opérations au lieu de 5 minutes, tu mets pratiquement 30 minutes à remplir des fiches. Si on peut revoir vraiment cet aspect des choses, ça peut nous arranger.
On va revenir, on a dit à faire un peu.
Mon agent me demande, tu...
L'origine des chances
pour la microfinance aujourd'hui, c'est ça. Alors, maître, nous sommes à la fin de cette émission. Votre mot de la fin, je sais que vous aimez aussi le football. Si vous avez quelque chose à dire sur la prestation des deux journées des Éperviers.
Mais je crois que, comme l'a dit Sylvestre Béni, il faut savoir être optimiste. Nous venons de loin. Deux matchs-là ne doivent pas obérer de notre espoir. Qui est grand et qui aura plus une politique beaucoup plus offensive, plus dynamique dans l'ensemble par le gouvernement pour que le sport dans sa globalité puisse sortir des sentiers battus. Parce que moi, je ne peux pas accepter qu'au moment où des équipes peinent dans les préfectures à se bâtir, qu'il y ait des sociétés d'État qui créent des sociétés, qui financent à des millions, je ne sais même pas combien, alors qu'on n'en a pas vocation, qui crée des équipes et qui concurrence ces pauvres équipes du terrain, comment elles peuvent évoluer. L'État doit pouvoir réfléchir pour dire, écoutez, si vous avez du fonds à injecter dans le sport, mettons-en dans une bourse commune pour aider l'ensemble du sport national. La réflexion, elle est là. Il faut que le gouvernement cesse de supporter ce genre de situation. Qu'on dit que le port est une équipe. Quelle est la plus-value que ça lui apporte sur son activité portuaire? OTR a une équipe. Quelle est la plus-value que je lui apporte sur son activité? Si ce n'est que pour venir parasiter l'ensemble du sport en injectant des fonds quelque part qui ne servent pas globalement à l'objectif national.
Donc il faut éviter cela. Maître, merci beaucoup d'être passé dans cette émission. Ça fait toujours plaisir d'être avec vous. Je rappelle que nous avons reçu ce matin Maître Tiassona Traoré, Mohamed. Il est le président du CPC, cadre permanent de concertation, président du mouvement citoyen pour la démocratie et le développement MCD. Merci beaucoup, maître, d'être passé dans cette émission.
C'est moi qui vous remercie. Merci. Je remercie l'ensemble de nos auditeurs pour leur écoute et ensemble de Togolais. Pour être résilient, il faut être résilient par le moment que court. Et j'invite à la une résilience républicaine.
D'accord. Merci beaucoup, maître. Merci à Sylvestre d'être passé dans cette émission. Estelle, merci à toi aussi d'être passé dans cette émission. C'était un plaisir et également pour moi de vous avoir reçu, Abbas Issaka, dans cette émission. Merci à tous qui nous avez suivis, vous qui nous avez appelés aussi. Merci à vous. Michel Tomega a assuré la mise en onde. Jérôme Bakouta a assuré la mise en ligne. Je suis Pascal Lessou. Je vous retrouve demain jeudi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.